Pierre Marlène.
Bonjour François.
Il est 7h23 et votre œil ce matin ne sera pas vraiment un œil dans le rétro, même si on va aussi évoquer un peu le passé, mais on va évoquer ce qui s'est passé hier en France avec ce second tour des élections législatives et ce que toute la presse française appelle cette claque pour le président Emmanuel Macron. Avec vous, on va essayer de comprendre la portée de ces résultats. Et d'abord, une première question, Pierre. Un président qui n'obtient pas de majorité au lendemain de son élection, elle a été réélue il y a 2 mois. Est-ce que c'est inédit en France?
Non, il y a un précédent, celui de 1988. Mitterrand, qui avait confortablement battu Jacques Chirac, remporte 275 sièges pour la gauche, donc aux législatives de 88, de justesse devant la droite classique de Jacques Chirac, 271. Et pour faire voter ses lois, eh bien, le gouvernement de l'époque devra s'appuyer parfois sur les communistes, parfois sur les centristes, hein, le centre-droit. La différence tout de même entre 1988 et 2022, c'est que François Mitterrand n'était qu'à 14 sièges de la majorité. Ici, la position d'Emmanuel Macron apparaît beaucoup plus fragile et lui manque plus de 40 députés.
Oui, ça reste quand même une situation assez inédite. Emmanuel Macron n'a donc pas de majorité absolue. Est-ce qu'il est condamné à une cohabitation, comme on l'a connu par le passé?
Imposer la cohabitation, c'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon l'avait présenté à l'opinion. Hein. Élisez votre Premier ministre. Et effectivement, si la NUP avait obtenu la majorité absolue, la cohabitation se serait imposée de fait. Mais c'est ce qui était d'ailleurs arrivé en 1986, en 1993, hein, Premier ministre de droite avec un président de gauche, et en 1997, l'inverse, hein, Premier ministre de gauche avec un président de droite. Mais aujourd'hui, c'est très différent. La NUP est très loin de la majorité. En fait, personne n'a la majorité. Et comme le premier parti reste celui d'Emmanuel Macron, il n'y a a priori pas de raison de nommer un Premier ministre d'un autre parti que celui d'Emmanuel Macron.
Voilà, vous l'avez dit, personne n'a de majorité. Ça va évidemment compliquer la donne politique en France. On va le voir avec vous. On va se projeter dans ce qui pourrait arriver demain. Un mot tout de même pour tenter, Pierre, d'expliquer ce qui s'est passé hier. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron, réélu président avec tout de même plus de 58% des voix il y a à peine 2 mois, ait connu un tel échec aux législatives?
Alors, pour deux raisons. D'abord, une sorte d'excès de confiance. Parce qu'en 2017, il y a 5 ans, beaucoup d'observateurs s'étaient demandé s'il allait obtenir une majorité parce qu'il n'avait pas de parti derrière lui. Bien, le résultat, ça a été tout de même 308 députés pour La République En Marche, c'est-à-dire 21 de plus que la majorité absolue, 350 si l'on compte ses alliés du Modem. Victoire éclatante. Donc, alors, 5 ans plus tard, eh bien, Emmanuel Macron n'a pas vu venir Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas cru à la capacité de rassembler la gauche dans une alliance électorale. Ensuite, le président de la République, il a choisi de ne pas mouiller le maillot, de jouer au président, de s'affichant au plan international, mais au plan national, pas vraiment de programme, si ce n'est moi ou le chaos. La campagne a été atone, sans vague, face à un Mélenchon qui attirait la lumière et dans l'ombre un Rassemblement national qui en profitait. En politique, vous savez, quand on subit et qu'on se cache, on triomphe rarement.
Bon, Mélenchon a été meilleur stratège politique que Macron sur ce coup-là. Qui a gagné hier, Pierre, finalement? On a le sentiment que chaque parti, chaque formation affiche un peu sa satisfaction.
Oui, alors pour la Macronie, c'est difficile tout de même de dire qu'on a gagné, de se réjouir sur l'air de la victoire en chantant, puisqu'on perd tout de même la moitié de ses députés. Mais on peut tout de même souligner qu'après tout, on reste la première force politique. Du côté de Mélenchon, on savoure évidemment la réussite de la stratégie du Rassemblement et on s'affiche comme seconde force politique, à condition tout de même de rester unis, c'est pas gagné, entre insoumis, communistes, socialistes et écologistes. On verra. Mais au Rassemblement national, là, on multiplie carrément par 11 les députés. Là, on triomphe. On passe de 8 à 89. C'est surprenant et c'est inquiétant. Ça veut quand même dire quoi dans un scrutin majoritaire? Ça veut dire que dans plus d'une circonscription sur 6, j'ai compté, un Rassemblement national a plus de 50% des voix. C'est ça que ça veut dire. Quant aux Républicains, eh bien, non seulement ils ont survécu, mais devenus indispensables, certains parlaient déjà hier soir d'un pacte de gouvernement pour former une majorité avec Macron. Bref, tout le monde a un peu gagné, il va falloir négocier. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, François?
Que voulez-vous dire exactement, Pierre? C'est vrai que, en y réfléchissant un peu, ça évoque les soirées électorales belges.
Et ben voilà, exactement. Fragmenté, l'Assemblée nationale française va désormais un peu ressembler au Parlement belge. Bon, n'exagérons rien, il y a quand même moins de partis et tout le monde parle la même langue. Mais c'est vrai qu'aucun parti n'obtient la majorité absolue, donc les accords entre formations politiques sont essentiels si on veut éviter de se retrouver en minorité à chaque occasion. À chaque projet de loi. Mais ce qui est arrivé hier est tout de même assez extraordinaire, parce que justement, le système majoritaire à 2 tours imaginé par le général de Gaulle avait pour objectif de créer facilement des majorités. Durant 50 ans, ça a parfaitement fonctionné, avec des affrontements entre 2 grands blocs, hein, de gauche et de droite. En 2017, première anomalie, Macron a réussi à se faire élire en dehors de ce système, en dynamitant en quelque sorte ces deux blocs. Aujourd'hui, eh bien, c'est un peu le système majoritaire à la française qui se trouve dynamité. Cela va au minimum compliquer la vie du gouvernement, au pire, le paralyser. Alors que le Parlement, lui, va se retrouver au centre de la vie politique avec sans doute des débats passionnés et explosifs. Conclusion, en politique, vous l'avez dit, hein, les choses évoluent vite. Très vite, pour l'avoir oublié, le président réélu il y a moins de 2 mois, assez confortablement, a connu son plus grand revers hier.
Encore une dernière question d'analyse, Pierre Marlet. Est-ce que les résultats de ces élections législatives, ça veut dire que le pouvoir va en gros passer de l'Élysée à l'Assemblée nationale en France? On peut le dire comme ça?
Alors en tout cas, c'est clair que l'Assemblée nationale se retrouve à nouveau maintenant au centre du jeu, parce que dans un scrutin majoritaire à la française, surtout avec des législatives qui viennent juste derrière les présidentielles, on avait un peu un Parlement godillon, on va dire, c'est-à-dire un Parlement aux ordres, quelque part, de tout ce qui se décidait à l'Élysée. Et c'est vrai que le président et son gouvernement pouvaient compter sur une majorité, faire un peu ce qu'ils voulaient, ne pas négocier comme chez nous, qu'on a l'habitude de voir entre les partis, faut mettre tout le monde d'accord, et on sait combien c'est difficile. Eh bien, maintenant, le Parlement français, c'est là que vont s'exprimer toutes les forces, c'est là qu'on va peut-être trouver des alliés de circonstances, des alliés plus importants, et la vie politique au Palais Bourbon, comme on dit en France, ouais. eh bien, ça va probablement être beaucoup plus passionnant et beaucoup plus instable aussi, ouais, pour le gouvernement.
On va envoyer des émissaires ici en Belgique pour voir comment est-ce qu'on conclut des accords avec des forces politiques.
Il y a un peu de Belgique, ouais, qui est entrée à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup pour cette analyse, Pierre Marlet.